carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts vous propose toute une série d'émissions consacrées à l'œuvre ultime dans l'art et en compagnie de Jacques-Louis Binet, correspondant dans la section membre libre de l'Académie des Beaux-Arts et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie nationale de médecine. Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent aux dernières œuvres de Matisse, Chardin, Picasso ou encore Manet. Dans cette nouvelle émission, nous vous proposons cette fois-ci de vous pencher sur les dernières œuvres d'un sculpteur contemporain. Il s'agit de Constantin Brancusi. D'origine roumaine, il fait l'école des Beaux-Arts à Bucarest avant de venir en France, à pied, selon la légende. Il est très vite repéré par Rodin qui lui demande d'être son assistant. Il reste pendant un mois à ses côtés, mais pas plus longtemps, car rien ne pousse à l'ombre des grands arbres, dit Brancusi. Il rencontra cependant le photographe Edward Station. Alors, Jacques Lubinet, pensez-vous que son attrait pour la photographie, l'attrait de Brancusi pour la photographie, va venir de là, de sa rencontre avec Station, puisque non seulement vous allez nous parler des sculptures de Brancusi, mais aussi des photographies que Brancusi a faites de ses propres sculptures.
Oui, la photographie me semble pour Brancusi un peu l'œuvre ultime, puisqu'il en aura fait beaucoup. Est-ce que lui a été suggéré par Station ? Station était le grand photographe ami des peintres, et en particulier de Matisse. Bon, donc il se connaissait et il a commencé à travailler avec lui en 1905, vous voyez, c'est-à-dire peu de temps. Je ne sais pas, ils ont dû faire un ou deux clichés. Mais enfin, ce n'était pas l'époque et j'aime mieux qu'on commence plus tôt. Donc le sujet, je le répète, c'est la recherche d'un espace pour ces sculptures et nous commencerons d'abord par voir ces sculptures. On a la chance, pour le moment, de pouvoir regarder toutes les sculptures qui sont dans l'atelier. Ça, c'est un privilège inouï, parce que tout est là. L'œuvre complète est là. C'est peut-être des pas l'original ou non, mais tout ce qu'il a fait est là, puisque l'originalité de Brancusi, c'était de garder tout auprès de lui. Sauf, bien sûr, la tour sans fin. Ça, c'est pas possible, puisqu'elle était partie. Mais tout le reste est là, et tout le reste, il va, à la fin de sa vie, le mettre en scène. Alors, j'aimerais mieux qu'on commence par regarder ensemble quelques-unes de ces sculptures que tout le monde peut voir actuellement, collé à Beaubourg, et on peut le voir depuis toujours. L'atelier a été installé, je crois, il y a déjà 8 ou 10 ans.
Et en accès libre, donc à proximité du centre Pompidou.
Exactement. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, comme beaucoup de grands, au début, Brancusi a dû se battre avec des oppositions. Dans l'approche, c'est un tailleur de pierre et de bois, mais on va faire comme si jamais il n'avait fait que tailler. Et il se trouve toujours devant le même antagonisme, c'est-à-dire sa volonté contre le matériau. Ça, c'est assez classique. Une sorte de divorce aussi entre l'image qu'il a rêvée, qu'il a imaginée, et puis le poids de la matière. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit peu à peu son œuvre évoluer. À l'origine, c'est ce qu'appelle une émergence. C'est-à-dire qu'il y a le bloc, et on voit sortir du bloc, mais le bloc est encore là, la sculpture. Ça s'appelle le sommeil, qui est une tête de femme, endormie, deux, trois quarts, et le reste du bloc est conservé.
Et brut.
Elle est restée dans le bloc. Deuxième étape, plus de bloc, on est sorti du bloc, et il obtient une sorte d'équilibre, un double équilibre. Un équilibre d'abord de forme. Sa première sculpture, je crois que je ne l'ai pas apportée, mais vous la connaissez, ça s'appelle « La sagesse de la terre » et la sculpture d'une femme, avec des formes très sensuelles, mais le tout contenu, et on l'imagine assez vite, dans un rectangle. Donc, si vous voulez, c'est l'association encore du cube, de la pierre, qui n'est plus là, mais le volume de la pierre dans laquelle il a sculpté cette femme est là, et puis des formes très sensuelles de cette femme. Si vous voulez, c'est un chef-d'œuvre, parce qu'on mêle la raison, c'est le cube, et puis la sensualité qu'est la femme.
Mais quelque chose quand même d'assez brut par rapport à ce dont on est habitué de Brancusi, c'est-à-dire des
non,
choses...
Non, parce que c'est, les formes douces. Sont très douces, mais ce n'est pas poli. Il apprendra à polir plus tard. Là, c'est l'équilibre. Et puis, il y a une autre sculpture qui est l'équilibre à l'intérieur même de la sculpture, qui est une sculpture qui est très connue, qui s'appelle le baiser. Alors, le baiser, c'est deux en un, ou un égale deux. C'est-à-dire qu'il y a deux têtes vues de profil. Les yeux sont presque collés les uns les autres et l'association des deux têtes forme une sorte de demi-cercle. Et ce demi-cercle est coupé par une verticale qui est le profil de l'un et l'autre. Quand je dis coupé, c'est à peine suggéré. Et puis, autour de cette tête, il y a plutôt de ses visages, il y a les chevelures, et puis ensuite, il y a les bras qui enferment tous les deux et qui retrouvent l'unité. Et il y a un total équilibre entre cette partie sculptée et le bloc d'en bas. Vous voyez, il équilibre au début totalement l'un et l'autre. Il dit qu'il faut rester raisonnable. La pierre doit rester, mais la figure apparaître. Il fait ça en 1907, et puis ensuite, il va poser, ou plutôt il pense, remettre cette sculpture sur le tombeau à Montparnasse d'une jeune fiancée qui est morte à 18 ans. Et là, il est obligé de quitter l'équilibre, parce qu'il faut que la sculpture monte un peu au-dessus du tombeau. Alors, l'équilibre est rompu, et il va reprendre cette même sculpture beaucoup plus tard, quand il va s'intéresser à l'architecture, et il va l'inclure dans une borne qui veut limiter deux parties de la Roumanie qui étaient liées ou qui n'étaient pas liées. Ou je
pour
ne sais
réunir
quoi.
Le donc, territoire.
Oui, c'est ça. Pour montrer qu'il n'y avait qu'un territoire, ce territoire devient, cette liaison devient une sorte de baiser. Ça s'appelle la borne de la frontière. Et le baiser est inclus dans cette borne assez haut, pas très, mais assez haut, et au-dessous et au-dessus, d'autres cubes, d'autres formes, avec uniquement des signes pratiquement abstraits. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il va tout le temps... Brancusi est quelqu'un qui ne change pas tellement de thème. Alors, donc, après cet équilibre qui disparaît, le troisième thème, il va lisser. Avant de lisser, il garde une fois la pierre brute. C'est une très belle sculpture qui s'appelle les Danaïdes, où le visage de la femme n'est pas la même que celle de ses chevelures, mais l'un et l'autre étant gardé, est en fait d'une pierre encore très brute, très rustre, si vous voulez. Et puis on rentre dans le vrai Brancusi, celui qu'on connaît, c'est-à-dire qui lisse, qui polit tout. Il polit tout ce qu'il peut. Ça devient complètement obsessionnel. Et là encore, il prend une forme qui est un ovale. Et qui devient le nouveau-né, qui va s'appeler autre chose, qui va s'appeler le commencement du monde, qui va s'appeler l'enfant. C'est une forme ovale qui est montrée longitudinalement et qui peut devenir autre chose. Et la muse endormie reprend presque exactement, je ne dois pas dire exactement, mais presque exactement la même forme. Mais cette fois-ci, elle est lisse, mais elle est dans sa partie médiane. On voit apparaître l'arête du nez et les sourcils. Et ça, c'est très intéressant parce que Matisse, il reprend la même forme, il améliore et tout ça, il lisse plus ou moins. Il lisse tellement que si on regarde le commencement du monde, qui n'est que la naissance d'un enfant, c'est toujours le même thème, cette fois-ci, il a fait un bronze et ce bronze relie. Il le polie et il va le polir toute la journée, de telle sorte que ce bronze devient une glace. Et très souvent, dans les photographies, on le voit apparaître lui-même, on voit l'atelier, mais on voit une vague silhouette qui n'est autre que lui-même. Vous voyez, toujours la même forme qui est reprise, qui est retravaillée. Alors on dit qu'en réalité, la même forme d'ailleurs, on la retrouve dans la muse endormie. La muse endormie, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc c'est la même forme qui va définir le monde, qui va définir aussi Prométhée, ou des thèmes assez différents. Mais tout ça, sur le plan visuel, il travaille avec pratiquement le même ovale. Et puis, on dit beaucoup qu'en réalité, il disait beaucoup qu'il était passionné par polir, mais qu'il ne voulait pas faire des glaces, qu'il voulait faire autre chose. Et ce qui l'intéressait, c'était l'essence, plus que l'apparence. C'est un mot qu'il répétait tout le temps. Sans qu'on sache, on sait très bien ce que ça veut dire, mais on ne voit pas très bien comment ça se situe dans sa sculpture. Eh bien, l'essence, plusieurs thèmes, mais un grand thème qu'il va répéter tout le temps, c'est les femmes. Alors, il adore les femmes, il va les représenter par tous les bouts, si je peux dire. Enfin, par tous les bouts, très souvent uniquement la tête. Et il va reprendre, mais plusieurs fois, par exemple, Mademoiselle Pogani, où, là encore, il joue de la face et de la chevelure. La face, on la voit très clairement, et la chevelure est repoussée en arrière et vient coller l'épaule de Mademoiselle Pogani. Et la face est très lisse. Par contre, la chevelure est hérissée. C'est une série de coupures, de cassures. Et on va voir que sur ces cassures, il pourra beaucoup jouer. Donc, ensuite, autre thème, les femmes. Et puis, un thème immense, qui est quand même le mouvement. Le mouvement, c'est plutôt l'effort du mouvement. L'élan. Il ne fait pas de coureur, c'est l'élan. Vous avez trouvé le bon mot, c'est l'élan. Alors l'élan, d'abord, je ne sais pas si c'est un élan, mais c'est le coq sur ses ergots. Il va le répéter. Donc, toujours une forme qui avance, qui regarde, qui monte. Voyez. Et la montée, pour lui, c'est quelque chose d'essentiel. Pas la course, la montée. Et la montée du coq qui reste droit. Il ne fait pas d'effort, les coqs, pour rester droit. C'est la montée paisible, si vous voulez. Et puis, autre thème qu'il va répéter, les oiseaux. Il va sculpter 28 oiseaux. Vous voyez qu'il les prend par tous les bouts, et dont un oiseau qui, paraît-il, correspond à une légende roumaine, qui s'appelle le ou la maestra, qui est un oiseau de conte. De conte de fées qui a beaucoup de pouvoir pour l'amour, je crois.
Capable de se transformer et de réunir les amants séparés.
Eh bien, non seulement il réunit les amants séparés, mais il répète le thème de l'oiseau. Et il va le montrer de plusieurs manières, mais on ne le voit pas, oui, on le voit pas voler. Il est immobile, l'oiseau. Et ça va être très important, parce qu'il va falloir que lui, autrement, lui trouve un espace pour le faire voler, pour l'animer. Et en particulier, on le verra beaucoup pour Maestra. C'est un thème qui va reprendre. Et puis, on continue à bouger, à monter, donc une sorte de mythe qui est la colonne sans fin. C'est-à-dire, au fond, un oblique. Un oblique qui est au début pas très haut, puis il le fait monter de plus en plus haut, puis il a une commande où il était devenu français, mais enfin, il était resté très roumain. Et il a une commande en Roumanie, et en Roumanie, il essaye de faire une colonne qui ne se termine pas. Alors là, quand même, bon, il est fasciné, il travaille beaucoup, mais un peu l'échec. Parce qu'il faut bien qu'elle se termine quelque part. Et là-haut, elle se perd avec le ciel. Elle se perd. De telle sorte que les photographies sont un peu décevantes. Nous qui avons l'habitude de tout ce qui monte très haut, parce que la ville est complètement déformée. Cet oblique qui monte, ben nous, on a l'impression qu'elle monte, mais pas tellement haut, si vous voulez. Et les bonnes photos sera celles où, au fond, elle apparaît à peine, celles où elle est entourée de nuages. Mais c'est resté pour lui, je crois, une sorte quand même d'échec. Et puis alors, il a passé la guerre en France, il n'était pas en Roumanie, il ne savait pas très bien ce que c'est devenu, et le gouvernement roumain l'a beaucoup aidé pour qu'il récupère. Alors maintenant, important, l'œuvre ultime, c'est-à-dire la mise en place. La mise en place se fait d'abord, c'est très important, par des socles. Il invente, il a fait beaucoup plus de socles qu'il n'a fait de sculptures, parce que toutes ces sculptures, il va falloir les mettre en place. Alors ces socles, vraiment, ils sont de toute forme, de toute manière. Il invente des formes invraisemblables, mais tout ça, ça doit monter. Il n'aime pas les choses par terre. Il faut qu'au moins, ça reste à un niveau qui se solide la table que vous voyez. Et puis, un socle admirable, c'est celui du nouveau-né, où il a pris le bronze du nouveau-né qui se reflète, et dans le nouveau-né, vous voyez l'image même de la table qui se reflète aussi, reflet contre reflet, voyez ? Et la chose disparaît. Mais tout ça, c'est soutenu en bas par un socle. Il va être obsédé par ce genre de choses. Et jamais il ne laissera quelqu'un d'autre le faire. Il le fait lui-même. Il taille, hein ? Il taille le bois comme il a taillé le marbre. Il est tailleur, il est manuel. Bon, ça c'est le premier changement. Et le deuxième, c'est quand même la photographie. Alors, il a fait 1800 photos. Il avait comme professeur, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une part Steichen et d'autre part Stieglitz, c'est-à-dire les grands photographes de l'époque, les très grands.
Il aurait pu se contenter de laisser les photographes faire leur travail.
Alors, il les a laissés d'abord. Et les autres sont venus pour faire des photos. Ils ont fait des photos admirables, mais qui ne l'intéressaient pas du tout. C'était la reproduction parfaite de ce qu'il avait fait. Et il leur a dit. Et ensuite, ça c'est avant la guerre de 14, 1905-1914. Et puis ensuite arrive Manet, qui arrive là-dedans et qui veut tout faire. Même chose, il laisse faire Manet, puis il lui dit, elles sont formidables vos photos, mais elles ne m'intéressent pas du tout. Au fond, il faut que je photographie moi-même. Est-ce que vous accepteriez de montrer comment on fait des photos ? Alors ils achètent tout ce qu'il faut, il va tout faire. Il va photographier, il va développer. Et ce qu'il cherche à faire, c'est pas une belle photo, c'est quelque chose qui fasse bouger sa sculpture. Il est obsédé, c'est ça son mouvement. Il faut que ça bouge. Il faut qu'elle soit dans un environnement qui en fasse. Il faut qu'elle se transforme. C'est vraiment l'obsession de l'illumination, de la métamorphose. Et il traînait dans l'atelier un vague chiffon bleu ou rouge. Et il met devant ce chiffon, je crois, le commencement du monde. Il tend le chiffon très fort. C'est un vieux chiffon moche, donc il y avait des trous. Flash, les trous apparaissent des étoiles. Et là, il avait gagné. Il n'avait pas fait exprès. Et il va toujours essayer de les mettre dans un espace sans savoir exactement comment ça va apparaître. Donc, il y a beaucoup de flash, 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 flash ratés. Il y a aussi, à côté de la même chose pour l'oiseau dans l'espace, où brusquement, la pointe de l'oiseau, comme s'il y avait un fil électrique, brille. Parce que le flash, je sais pas comment ça a fonctionné, mais le flash t'a fait briller cette pointe qui était très très lisse. Seule la pointe brille, tout le reste reste dans l'ombre, avec là encore un décor inouï, c'est-à-dire deux grands circulaires en forme de stock. Oui, c'est superbe. Bon. Et on a l'impression que ça devient presque une bougie. C'est une sorte d'illumination, de lumière qui est différente de la pierre et qui est différente du reste de l'environnement. Même chose pour Mayastra, où c'est un peu moins réussi parce que là, il n'y a pas de flash. Il la présente, je ne sais pas si c'est un oiseau masculin ou féminin, on va l'appeler l'oiseau. Il le présente devant un tissu, comme il avait vu l'autre, il a pris un tissu où il y avait encore plus de trous. Eh bien, c'est pas mal, c'est pas très très bien, mais c'est quand même été illuminé. Et puis, bien sûr, il revient aux femmes. Parce qu'il n'aimait qu'une seule chose dans la vie, c'était la sculpture et les femmes. Et Mademoiselle Pogani apparaît avec... Alors là, il fait des photos assez extraordinaires. Vous voyez celle-ci, où la tête est complètement polie, les bras sont coupés, mais vous voyez, au niveau de la coupure des bras, la pierre qui réapparaît. C'est-à-dire qu'on reprend toute l'œuvre complète. On est parti de la pierre et on a lissé. Et puis, sur la même Mademoiselle Pogani... Sa chevelure est derrière, et la chevelure va être l'objet, qui d'ailleurs je crois que c'est celle qui figure dans le catalogue du livre de Schneider. La chevelure va prendre la lumière coupée, elle va couper la lumière. Donc là encore, on a une opposition entre la face qui reste lisse et les coupures de lumière qui viennent lui constituer une sorte de cou, de robe. Autrement dit, il transforme Mademoiselle Pogani. Alors actuellement, à Beaubourg, grande première, on voit ses films.
Car Brancusi a également fait des films.
Bon, les films, alors tout le monde dit, c'est vrai, les films, personne ne pouvait les voir, puisque la famille gardait, c'est très compliqué, l'héritage de Brancusi, parce qu'il n'y avait plus personne, donc il y avait tout le clan roumain qui était derrière, enfin il a tout donné, parce qu'il faut quand même dire qu'il faut retourner dans l'atelier, j'y reviens, parce que c'est un endroit capital qui a été formidablement mis en place par l'ancien conservateur du musée d'art moderne. Il a fait un travail absolument étonnant. Et on tourne autour, avec un espace qui est très clair. La lumière vient d'en haut, puisque c'est du verre. Et quand on le voit, le gardien dit toujours, c'est exactement comme avant, mais avant il y avait de la poussière, et maintenant il n'y en a plus. Donc on retrouve l'œuvre complète. Et il y a aussi l'appareil photo. Il vivait là-dedans, il ne sortait plus.
Est-ce que Brancusi vivait dans une mise en scène ?
Oui. Il vivait un peu dans une mise en scène, d'abord pour séduire ses copines, et puis pour lui-même. Là, je ne veux surtout pas le caricaturer, parce que c'est un immense. Et une mise en scène de travail, parce qu'il fallait trouver la bonne place, le bon socle, le bon flash. Il n'arrivait pas à trouver le bon flash. Il a mis beaucoup de temps. D'abord, au début, il n'avait pas de flash, il avait simplement une lumière. Et il y a une des premières où il y a juste une grosse lampe dont on voit le fond, devant... Il y a, comme d'habitude, le commencement du monde, et puis il y a l'ombre du commencement du monde, et on a l'impression que là, on est complètement dans le ciel, et que le commencement du monde est une sorte de, je ne sais quel astre, si vous voulez, qui produit son ombre avec le soleil derrière. Et, mais il a été plus fasciné par l'illumination de l'oiseau, quand le bout de l'oiseau est allumé comme une bougie, que par tout le reste. 1800 photos pour en faire 10 de bonnes, il faut aimer ça. Et ça traduit l'obsession d'un grand qui est fait pour mettre en scène sa sculpture.
Alors on arrive au terme de notre émission, peut-être quelques références, un livre déjà, que vous avez cité rapidement.
Un grand livre pour changer, parce que c'est toujours le même auteur que je cite, mais pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, Pierre Schneider, publie chez Hazan en 2007, à un moment donné, Brancusi et la photographie. Et puis, l'autre référence, il faut y aller, parce que c'est facile, ça ne coûte rien, l'atelier qui est collé à Beaubourg. Encore une fois, il faut beaucoup remercier Germain Viatte qui l'a refait quand il était conservateur. Et pendant tout l'été, ça ne durera peut-être pas plus longtemps, il faut quand même voir les photos. Le choix, c'est chacun son goût et son mauvais goût.
Vous ne partagez pas forcément la sélection.
De temps en temps, je trouve qu'il y a un peu des choses anecdotiques, mais enfin, en gros quand même, presque toutes réinterprètent sa sculpture. Et ça, c'est très intéressant. La métamorphose, vue non pas par le photographe, par le critique, mais par le sculpteur lui-même, c'est quand même une belle fin, c'est quand même une obsession de l'œuvre complète, si vous voulez. Le temps ultime.
Exposition qui se déroule donc tout l'été 2011. Merci à vous Jacques Lubinet. Et puis donc prochaine émission consacrée à Louise Bourgeois.
Merci à vous. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.